Donc ma façon d'essayer de lancer notre projet, j'espère, commun autour de ce séminaire, ça va être de rationaliser mon parcours. Là, cette idée, on dit toujours la même chose. En particulier en partant de la musique, qui était mon objet d'investissement principal, mais de ne pas reprendre la façon dont je l'ai abordé avec les mots, disons, ou les questions, ou les adversaires de l'époque, mais plutôt en me demandant quoi ça pourrait coller exactement avec les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc je dis rationaliser parce que savoir pourquoi on étudie quelque chose. Mais je pense que le premier petit volet, ce serait en le disant, je me dis c'est exactement pas le vocabulaire que j'aurais utilisé. Mais en gros, je me suis servi de la musique pour faire entrer l'ontologie dans la sociologie. Donc taillot. Pas du tout. En revanche, à la façon dont les anglo-saxons prennent un mot et aussitôt en font un nouveau collectif de recherche, des ontologies qui se multiplient partout, c'est un peu contradictoire avec le mot même d'ontologie, hein. C'est pas des êtres, des ontologies, c'est des façons de penser l'être. S'il y en a 3-4, c'est mieux que s'il y en a 48, probablement. Mais qu'est-ce que je veux dire, cette façon assez concrète, quelle était ma question ? Quand je m'interrogeais sur la possibilité de faire une sociologie de la musique, c'était précisément de remettre en cause ce qu'était l'objet musical. Et ça, c'était assez explicite. Hein, c'est-à-dire que le gros avantage de la musique sur la peinture, c'est que ce n'est pas un objet fixé là au mur. Alors après, évidemment, sur la peinture, et les travaux d'histoire de l'art en particulier ont montré à quel point la peinture était tout sauf un objet posé là contre le mur. Mais pour les musiciens, le fait que l'objet même, avec tous les sens du mot, là, le mot objet est pas mal puisqu'il va de cette réduction à la chose, à au contraire objet, ce qu'on projette, ce qui est là devant, voire ce qui nous appelle, la définition même de l'objet musical posait problème, et là aussi, comme tu disais, posait problème aux acteurs eux-mêmes avec tous les aides qu'il faut. Donc, pour le début, j'ai beaucoup ferraillé avec la division entre l'objet, surtout en art, entre l'objet ou le social. Est-ce que c'est nous qui faisons l'objet ? Est-ce que c'est l'objet qui compte, etc. Ce qui est en matière d'art est important parce qu'il introduit aux questions de valeur ou non. Est-ce qu'on garde de l'extérieur des acteurs, attribuer de la valeur à quelque chose sans s'occuper de la chose ? On regarde comment la chose vaut pour des personnes et en quoi elle résiste ou non. Mais c'était plus technique que ça, finalement, dans mon observation de la musique. Donc là, ça ressemble beaucoup à un des courants qui est matrice des travaux qu'on a fait depuis longtemps, y compris au CSI et dans nos voisins, au CEMS ou au GSPM. C'est-à-dire que c'était l'ethnométhodologie. Une ethnométhodologie prise au sérieux, comment les musiciens eux-mêmes, au sens le plus large qu'on peut donner à ce mot, font pour faire apparaître au milieu d'eux, mais en donnant apparaître le sens de l'enfant paraît, hein, pas au sens d'avoir un phénoménologie qui a une apparence, puis la chose est même. Comment on fait apparaître, on fait exister un objet au milieu de nous. Et alors ce qui est intéressant, c'est cette espèce d'inversion du pensable, là, pour prendre l'expression que je trouve magnifique, la très féconde de Decerteau, c'est-à-dire que tout ce qui compte est précisément ce qui n'est pas fixe dans l'objet. Donc ça nous tendait, hein, nous, je fais exprès qui fera partie de nos débats, aux acteurs, aux musiciens, au public, aux sociologues qui les étudient, mais ça nous tend un art de se poser la question de trouver les moyens, de travailler les corps, de faire les dispositifs, il y a tous ces outils que la sociologie des techniques a aussi utilisés, pour que quelque chose prenne consistance au milieu de nous. Consistance, même ce mot est bizarre, puisque, c'est pour ça que je disais inversion du pensable, plus c'est fragile, incertain, plus il faut travailler pour le faire apparaître, mais plus, dès qu'on le reprend, ce sera autre chose, plus on est au cœur de l'expérience. Donc il y avait une chose de basculement que le, disons le, par exemple le petit bouquin de Sudnow sur le jeu du piano là, donc sociologue interactionniste, copain de Becker, de Goffman, fait un bouquin très petit d'ailleurs, qui est sur l'expérience du pianiste, et c'est d'une, il faut le relire aujourd'hui d'ailleurs, parce que une fois qu'on est chargé de tout ce qu'on a mis derrière, c'est un petit bijou sur cette expérience absolument localisée qui mêle les corps, mais aussi le corps au sens fort, et la mémoire, tout ce qu'on a intégré dans notre corps, qui mêle l'objet, vous voyez comme le mot est pauvre, un clavier de piano, parce que c'est un objet. Si vous passez devant, c'est une mâchoire rigolote, ou un truc idéal pour les dessins animés de Walt Disney ou de Tex Avery. Mais si vous êtes pianiste, l'objet même n'est pas le même. C'est-à-dire que les différences qu'il contient, les résistances qu'il nous tend, les possibilités d'en faire de la musique changent. Et puis, ce n'est pas le piano lui-même, puisque évidemment, le piano n'a pas de sens si vous, avec vos doigts, votre toucher, votre façon d'avoir fait des gammes et des gammes, et en même temps d'avoir des tas de répertoires et de styles en tête, voire, pour les jazzmen, d'avoir travaillé l'improvisation, mot sublime, mot sublime. Plus j'ai accumulé de choses, plus j'ai fait des gammes, plus je peux ouvrir le monde et non pas le fermer. Donc la condition même qu'une improvisation soit ce truc sur le cutting edge, comme dit joliment, les jazzmen, toujours, c'est le titre d'un tube de Rollins, de Sonny Rollins, plus on est sur le cutting edge, précisément parce qu'on a sculpté dans le moindre détail des médiations, comme aurait dit l'autre, très hétérogènes, le corps, des répertoires, les salles, l'acoustique, avec à chaque fois des mainteneurs d'ordre très différents. Et le piano, lui, s'occupe que de jouer, mais hop, il y a une histoire même de la fabrication du piano au 19e qui est complètement délirante. Enfin, passionnant, puisque tout y est, les cordes, le son, l'ampleur, le bois, le fer, la résistance, l'accord, etc. Donc il y a toute une histoire du piano qui vous tombe dessus. Ah non, non, médiation. Oui, il faut l'histoire du piano, mais là, en ce moment-là, Pleyel en 1856, non, ça vous est égal. Qu'est-ce que je fais là avec... Pareil pour son histoire personnelle, son éducation. Et puis surtout, cette espèce de pointe en avant. Et alors, tout ça qui était nécessaire, c'est bien que c'est là. C'est non seulement c'est là, mais c'est une surprésence. C'est-à-dire, il faut absolument être encore plus présent dans ce moment-là pour que puisse arriver quelque chose qui est quoi là. C'est là que c'est une ontologie au sens expérimental du terme. C'est-à-dire son objet même est cette espèce d'impossibilité de confondre un objet avec une chose posée là. Alors, évidemment, je rationalise un peu, hein, mes travaux sur la musique, c'était pas que l'espèce d'observation de la finesse du doigt du piano, mais par exemple, si on fait une analyse sauvage, comme j'ai fait récemment, là, une auto-analyse de cours de chant, c'est encore pire. C'est encore pire parce que j'ai quand même parlé de jouer du piano et de faire de la musique. Alors que l'avantage du chant, c'est que c'est pas du tout évident que c'est de la musique, surtout pour les auditeurs. Mais cette confusion des couches successives de réalité, dont toutes sont nécessaires, sont sculptées au millimètre et dont aucune ne garantit un résultat, ding ding, une bonne définition de la médiation, c'est vraiment le travail même d'un cours de chant. Est-ce que vous êtes en train de respirer? Est-ce que vous êtes en train de penser à votre œsophage, votre cage thoracique? Est-ce que vous lisez les notes, mais comme du solfège pour essayer d'avoir la mélodie? Est-ce que vous commencez vaguement à vous intéresser à la beauté du son? Et puis, à certains moments, quand ça marche, plus tard, est-ce que vous êtes au contraire non plus dans la musique, mais dans ce que fait la musique? Pourquoi c'est beau? À quel moment ça va être sensible? Le son lui-même? Vous passez au son, alors c'est des choses complètement différentes. Au moment où vous battez vous-même pour produire un son à peu près correct, c'est-à-dire comme au tennis, à faire tout le contraire de ce que vous faites spontanément, non, plus en bas quand c'est plus en haut, non, plus ouvert quand vous essayez de serrer, non, pas fort, fort ça ne veut pas dire fort, ça veut dire relâcher. Bon, vous apprenez tout ça, c'est le son que vous produisez, mais ça ne suffit pas. Ce son que vous produisez à d'autres moments, en gros, quand quelque chose est digéré, passer dans une espèce de mécanisme, et vous voyez comme les mots sont faibles pour dire ça, parce que le mécanisme au moindre petit accro, hop, il faut le réanimer, hein. Vous passez à un son qui est autre chose et que les pianistes travaillent aussi, c'est-à-dire le son pour la salle, c'est-à-dire ce son qui c'est quoi ça? C'est des nappes, c'est des quoi une nappe? Ah oui, c'est une métaphore du prof, une réalité physique, ni un ni l'autre, c'est l'expérience du son au moment où vous commencez moi à vous occuper de vos oreilles et de ce que ça fait en vous, mais vous vous demandez comment. Alors, il faut la musique pour comprendre la variété physique des sons. C'est-à-dire que si vous êtes en train de dire à la fin d'un opéra « je t'aime et tu vas me tuer », ou si vous faites du Schubert en vous demandant si c'est plus dépressif à cet endroit-là ou à cet endroit-là, votre voix change pour ce que vous voulez dire, et aussi vous faites des erreurs parce que du coup vous chantez piano et vous mettez plus de son du tout et personne n'entend plus rien, ce qui n'est pas très intéressant. Et au contraire, vous apprenez à timbrer tout en faisant piano, donc il y a un mélange de technique, de son, d'expression, et c'est toutes ces couches-là qui passent. Et puis des fois, la musique, c'est pas fait pour faire de la musique. C'est-à-dire que parfois, ça émeut, on dit bêtement, ou ça envoie ailleurs, c'est vrai que vous avez dormi, il y avait un concert, mais il y a eu 10 minutes, vous voyez, les mots sont toujours faibles quand ils disent des choses les plus profondes, la sublime, où j'étais ailleurs où. Donc vous voyez, cette espèce de réalité très ferme, au sens où si vous suivez ces détails, c'est tout sauf arbitraire, c'est de travailler jusqu'au moindre, à la plus grande susceptibilité, sensibilité possible, mais c'est jamais un arrêt. Hein, donc c'est un cours d'ontologie ouverte, pluriel, inversion du pensable. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment de l'ontologie fondamentale. C'est-à-dire, non, il n'y a pas un monde englobant et des grosses catégories, et puis on arrive au détail. Il n'y a rien dans ces mondes globaux. La phrase de Latour sur le global qui est toujours beaucoup plus pauvre que le local, c'est ça, c'est la même chose. Si vous dites la musique, il n'y a rien dedans. La musique, là, à ce moment-là, avec quelqu'un, mon répertoire atteint, plus vous vous rapprochez de cette expérience locale, voilà, comme c'est mal dit, voilà. Comme si c'était local, le jeu, à ce moment-là, alors que vous trimballez toute l'histoire de la musique, l'histoire du jazz, votre corps, vos entraînements, le goût du public. C'est là, mais c'est en train de se passer. Donc cette théorie, de cette attention, cette sur-attention à ce qui arrive, hein, j'ai envie d'appeler une apenologie, comme ça n'existe pas. Parce que si on dit phénoménologie, on rate. Les Américains confondent pragmatisme et phénoménologie, mais pas nous autres. Occidentaux, qui savons des philosophies dualistes, voire hyper-dualistes, et des philosophies anti-dualistes, c'est pas la même direction. La phénoménologie, oui, d'accord, pas s'il y a la réelle et l'apparence. Non. Paraître, qu'est-ce qui fait arriver, qu'est-ce qui surgit dans une expérience. D'où une autre matrice qui est venue à peu près dans ces eaux-là, là, et qui est plus théorique, celle-là, qui était les histoires de pragmatisme. Je dis exprès parce qu'on est entre nous les histoires de pragmatisme, parce que c'est vraiment ce qu'on en fait. Plus que le pragmatisme, parce que s'il y a un courant qui n'est pas le pragmatisme, c'est bien lui. C'est à ce moment-là que c'est arrivé, et alors je caricature un peu, mais pour souligner les points qui nous intéressent à présent, c'est que lui-même est pris par un certain dualisme contre lequel il se bat. Et c'est ça les cadres, qu'on veut essayer un peu de secouer, là, les limites, les limites au-delà duquel le ticket est plus valable. Donc il faut s'approcher de choses philosophiques sans faire de la philosophie. Mais pour secouer un peu ce que la sociologie trimballe d'hypothèses contradictoires, avec ces ontologies ouvertes en train de se faire. Ben, le pragmatisme lui-même, quand il est arrivé en sociologie, sans qu'on ait beaucoup lu les auteurs qui s'en réclamaient, c'était bien autour de l'action humaine, collective, donc c'est surtout du oui que les sociologues ont lu, et pour de bonnes raisons. Le débat, donc il y a des tas de liens avec la méthodologie et la version STS et la version plus dure de l'ANT, autour de ces matters of concerns, de cette accent sur l'enquête, de ce débat collectif. Et l'écho, pour moi, des auteurs en question, c'était l'écho avec celui dont on parlait le moins, quand un sociologue reprenait le pragmatisme, qui était William James. Il faut que je précise, parce que déjà dans les conférences, on m'a dit « Ah, James a écrit sur le pragmatisme ». Donc, je croyais que tout le monde le connaissait. Et en effet, il n'y a pas un mot, comme vous l'avez probablement lu, mais il n'y a pas un mot sur le collectif, il n'y a pas un mot comme social. Bon, il y a quelques petites choses quand même du côté de l'institution, mais beaucoup moins que du « oui » ou « oui » d'après lui. Dans James, hein, il vient de la psychologie, il est non pas anti-dualiste, mais adualiste. Mais en revanche, c'est un philosophe de l'expérience. S'il y a un mot qui résume James, c'est expérience. Alors, expérience, évidemment, le mot est lui-même compliqué, comme tous les mots, enfin, ou impur. Mais je pense que tout son travail est une façon de souligner de façon radicale, pour prendre son mot, plurielle et ouverte. Cette idée qui est une idée dont on ne sait pas si elle est philosophique ou si elle est antiphilosophique. Il y a un côté, je me débarrasse de la philosophie dans James qui est très présent. Alors, bien, tous les philosophes font ça, donc ce n'est pas si discriminant que ça. C'est plutôt au moment de faire les enquêtes qu'on voit s'ils sont philosophes ou chercheurs. Et là James, bon, est plutôt du côté des philosophes. Mais tout son problème, c'est de, avec l'insolence qu'il caractérisait, que j'adore, il y a des espèces de discussions avec des vieilles dames du 19e sur de la psychologie, sur des questions qu'on ne se pose plus du tout, puis paf, des phrases qui arrivent qui sont... C'est un penseur des diamants noirs, là, de ligne, dont on navigue avec un problème depuis 10 ans, puis rétrospectivement, on lit, puis on dit, ah bah oui, genre, les choses ne sont pas vérifiées parce qu'elles sont vraies, mais elles sont vraies parce qu'elles sont vérifiées. Hop, 1885, résumer tout le STS sans y aller. Il y a plein de phrases comme ça dans le jet. Autour de cette idée d'expérience, alors la phrase que je voulais dire, qui est un peu pour nous là, puisqu'il se moquait lui des philosophes, et nous, il faudrait nous moquer des sociologues. C'était cette histoire qui rappelait. Il rappelait avec un sourire en coin, on lit là, il rappelait aux philosophes que le monde est encore en train de se faire. The world is still in process of making. Et still in process of making, ça a l'air de rien, mais je veux dire, comment voulez-vous faire une science positive si le monde est still in process of making? C'est pour ça qu'il le rappelait avec ironie. Non, notre travail, alors là je extrapole pour nous, un travail de chercheur ne peut pas être de prendre du recul, pour prendre des formules, on voit la sociologie critique, mais bien au-delà de ça, la posture scientifique elle-même. Science sociale, c'est deux fois une bêtise. On ne peut pas penser qu'on se met hors du monde pour le regarder faire et trouver des lois, trouver des règles qui diraient malgré eux, malgré pas eux, malgré les choses, malgré le cours du monde, ce que le monde est. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis ça se passe exprès parce que cette formule française est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Still in process of making. Donc, ça touche du côté de la posture scientifique. Non, c'est pas une façon de chercher ce qui est fixe. Donc, c'est pour ça que fragilité n'est pas loin. C'est pas... Non, la fragilité, c'est en effet l'état du monde. Et alors, il ne faut pas enlever du monde. Parce que le deuxième pied du petit système, je ne sais pas système, parce que ça ne ressemble pas beaucoup à un système de James, c'est la pluralité. C'est-à-dire que c'est exactement... Je projette un peu, hein. C'est exactement l'ontologie que j'allais chercher dans la musique, c'est-à-dire cette espèce d'aversion. Non, plus vous vous rapprochez de l'expérience, plus elle est faite de couches et de couches infinies, hétérogènes, connected loosely. Alors, je suis toujours en admiration devant cette formule de James, un philosophe. Et ça nous change quand même d'autres philosophes qui disent loosely connected. Ben oui, la table, il prend l'exemple de la table, parce que tout le monde en met des philosophes. Ah oui, mais quand même, la table, la table, c'est le menuisier, c'est l'organisation de la salle, c'est les souvenirs, c'est ce que j'ai écrit dessus, c'est des chaînes qui n'ont rien à voir entre elles. Hein, rien à voir, c'est loosely connected. Et donc, plus vous arrivez au cœur de l'expérience, qui forcément est en cours, actuelle, rigoureusement actuelle, sans débord, je dirais, plus vous êtes devant une multitude ouverte de réalités, de couches, de réalités qui s'entremêlent. Ben ça, c'est une expérience, pour le mot, absolument courante. Donc là, j'aime bien quand le sens commun, la force, la phrase la plus forte de Bourdieu, c'est pour le moment d'avoir intitulé sa collection « Le sens commun ». Il faut absolument retrouver ce sens commun, précisément parce que les mots ne sont pas capables de retenir les expériences. Et ben oui, le musicien... le fait que chaque concert est différent, que oui, une symphonie, vous avez beau la chef l'avoir redit 20 fois, si vous partez en vous disant bah, je le refais un coup, non, ça n'a pas marché, il faut que je m'en mette contre moi. Donc, ce qu'il disait aussi, c'est pas une volonté d'un sujet qui révèle que tout, non, des fois on résiste, avant un concert on a le trac, pas pour rien. Et alors, ça doit arriver, je commence à être pris par le fait même qu'il faut que je réponde à la situation, j'ai des moyens qui arrivent, que je mobilise, et surgit ou non un événement toujours problématique. Autre argument, bon, très anti-scientiste, hein, il est très anti-scientiste, parce qu'il a une enquête racontée, mais c'est que parler des choses, faire des mesures, faire de la science, c'est additif, comme il dit joliment, c'est une expérience de plus, tout aussi locale, dirait Latour, qui ajoute. Alors, je faisais un peu, je disais qu'il ne fallait pas être grandiloquent, mais c'est pour la... la première séance, hein, je secoue un peu le cocotier pour indiquer finalement ce qu'on cherche avec fragilité, tout sauf un état différentiel, soit dans un geste humaniste et contre les politiques actuelles de migration, on se penche sur des êtres vulnérables qu'il faut soutenir par opposition aux autres. Hein. Et même au-delà de ça, c'est même pas un état des choses en général. Hein. C'est-à-dire un état des choses en général, incluant les êtres, les humains, les entités, les pensées. C'est plus un angle d'attaque. Une idée sur la matérialité, c'est drôle, parce qu'une bonne définition pour les physiciens de la matérialité, c'est que les choses puissent se casser. Casser, c'est le même mot que fragile. Donc là, c'est fracture, c'est faille, toute cette série de mots qui sonnent bien quand on est dans la vulnérabilité. L'un des projets de ce séminaire est du fait de faire le passage entre les objets techniques, des êtres, des idées, des personnes. C'est bien de voir que c'est le mode de saisie des choses. Alors, je passe vite sur le décalage vers les amateurs. Évidemment, quand j'ai travaillé sur les amateurs, c'était surtout pas pour aller en bout de chaîne après avoir travaillé sur le baroque, sur la production, sur les interprètes. Il faut quand même s'intéresser au type qui est dans la salle. D'ailleurs, d'habitude, les sociologues, au lieu de regarder la musique, ils regardent ce qu'il y a dans la salle. Donc, c'est pas du tout le récepteur. C'est que si on va au bout du raisonnement, s'il n'y a de musique que d'expérience musicale à faire arriver, ben, l'endroit où il y a une expérience musicale, c'est l'amateur. Et donc, intéressons-nous aux façons dont des personnes attachées à la musique s'attachent elles-mêmes à aimer ce qu'elles aiment. Et là, alors, c'est un peu comme vos mainteneurs. Hein. On ouvre ce genre de boîte, et par rapport à la pauvreté, tout de même, entre nous, hein, des recherches sur les goûts musicaux qui consistent à dire, est-ce que vous aimez le cocher là, est-ce que vous aimez le Danube bleu ou le clavier bien tempéré, vous avez entendu parler un amateur de la façon dont il aime les choses. Alors tous, vous avez des amateurs, et vous êtes amateurs. Donc moi, j'ai fait sur la musique, puis sur le vin. La comparaison était intéressante, parce que justement, l'objet, au sens courant du terme, est absolument aux opposés. Il n'y a pas l'objet plus fuyant au sens culturel, pas au sens où c'est rien, hein. Au sens où vous passez une seconde de musique, il n'y a pas de musique. L'objet même n'est pas là. Il faut un peu de temps, il faut que vous commencez à repérer, à reconnaître. Donc ça vous envoie tout de suite dans des histoires, dans votre mémoire, dans l'histoire de la musique, dans les genres. Le vin, oui, il y a tout ça. N'empêche que... un truc là dans le verre, et puis vous allez tout savoir, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Très bien, si, hein. Non, si vous ne faites pas attention à autre chose, il ne se passe rien. Si vous mobilisez toutes ces couches de réalité qui se répandent progressivement, ça peut être. Donc on a, avec John Leftel, là, pour le coup, on a beaucoup travaillé ethnométhodologie, je veux dire. On le disait plus ou moins selon les moments, et c'était plus ou moins à la mode selon nos positions vis-à-vis d'autres, notamment autour d'ANT, les ethnométhodologues, ils ont aussi fait des bêtises et tout. Mais grosso modo, cette idée que notre recherche consiste, c'est les questions qu'on va se poser dans ces mières, je pense, consiste en quoi, là? À accompagner, recueillir, suivre une expérience qui est massivement, enfin vraiment profondément, celle des personnes concernées, pour prendre un vocabulaire pragmatique, celle des expérienceurs, des expérienceurs d'une chose donnée. Ben oui, c'était ça, là, notre règle du jeu sur les amateurs. Mais vous voyez toutes les implications, hein, par rapport à cette inversion du pensable. La science n'est pas celle que nous déployons sur des acteurs, c'est au contraire celle que les acteurs eux-mêmes, avec les aides en question, la formule n'était pas si bête, ont, mais ont pas au sens d'un savoir, au sens de cette couche d'expérience avec un S partagée, et donc tous les développements que j'ai faits sur la nécessité d'avoir un collectif pour débattre, qu'il n'y a pas de goût sans quelqu'un qui vous engueule sur votre goût, qui vous en sort, il y a des règles du jeu, il y a des manuels, il y a des trucs, il y a des ficelles d'entraînement du corps, et puis toujours là, cette importance de l'objet lui-même, qui n'est pas là, mais qui, à travers tous les classements, les mots, les façons de présenter, les mises en évidence, est ou non présent. Avec ce plus de la musique, qui est le concert, la performance, mot génial, dans le double sens anglais, puisque dans le mot français, j'insiste sur le côté sportif, bien présent pour les pianistes, mais que le faire arriver, le réussir à faire apparaître quelque chose, est est la définition même de l'expérience. Donc, amateur, c'est peut-être ce qui me servirait aujourd'hui à interroger le plus précisément la nature exacte de notre enquête, pas tellement pour nous différencier de la sociologie, ce qui était plutôt le couplet précédent là, sur le fait qu'on ne peut pas se débarrasser des choses. Hein, c'était le geste premier de l'ANT. Hein. C'est un geste ontologique, tout le monde a compris. Hein. Les coquilles Saint-Jacques, pourquoi tout le monde citait les coquilles Saint-Jacques? C'est parce qu'avec le prêt très technique de Michel, à point de passage obligé, intéressement, etc., que personne ne reprend tel quel, on garde l'idée, merde, on ne peut pas parler d'un truc aussi con que les coquilles Saint-Jacques sans se mêler des coquilles Saint-Jacques. Non, c'était une petite révolution ontologique, pas complètement développé, mais à suivre. Donc, en revanche, quand je parle de l'expérience des amateurs, où tu parlais de la sociologie du travail, c'est bien, c'est ce genre de provocation aussi qu'il faut faire. C'est pas tellement pour me différencier de la sociologie, c'est pour, base de la critique, c'est pour dire ce qu'elle a toujours fait sans toujours avoir le modèle qu'elle utilisait. Attendez, la sociologie la plus critique, elle commence par aller faire des entretiens et demander aux gens ce qu'ils pensent. Alors, ça les gêne un peu. Hein. Ah ben oui, ils savent sans savoir. Évidemment, ils sont déterminés par des choses qu'ils ignorent. Ah ben oui, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait couramment, au jour le jour? Eh ben, on va dans une institution, on étudie la santé, on va à l'hôpital, et qui sait ce qui se passe, pour utiliser cette formule, c'est les acteurs eux-mêmes. Donc la sociologie la plus traditionnelle, même si après le modèle peut être complètement différent, hein, je recueille ça, mais en fait, faire autre chose, non. À la base, ça consiste à recueillir les expériences des personnes concernées, voire, comme c'est l'utilisation du matériau, du savoir des personnes concernées, sur la façon dont les choses résistent ou protestent. Donc c'est un petit peu aussi les deux ouvertures, hein, écoutez, secouer le cocotier de ce qu'on fabrique en sciences sociales, avec ces deux mots terribles, science, on a quand même d'autres choses que ce que font les acteurs, et social, ça celui-là on a déjà beaucoup. Social d'un côté, et puis vous vous intéressez aux choses, c'est tout différent. C'était ça la petite allusion que j'ai pas finie sur le pragmatisme, parce que finalement, entre James et Dewey, entre le pragmatisme des sociologues et un pragmatisme de philosophe, la différence, elle ressemble à ça. La principale question de James, c'est bien, pour le dire en mot plus moderne, quelle est la chose elle-même, et comment est elle-même, ça n'a pas de sens, quoi. Comment parler de ça? Et au niveau du Dewey, c'est quand même beaucoup plus comment repenser le collectif, le politique, les valeurs, les concerns, etc. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai fait le mouvement un peu inverse de Carab, parce que je suis partant de ce genre de sujet. J'ai travaillé sur le CARE, aussi à la suite de l'expérience personnelle. Tu signalais l'Alzheimer, j'ai pas travaillé moi directement sur l'Alzheimer, c'est ma maman qui est morte d'Alzheimer. Et bêtement, j'ai fait un article dans Le Monde comme un fils troublé par la façon dont Le Monde, en gros, glorifiait le geste d'un gendarme qui avait trouvé la solution, consistait à flinguer sa femme, donc, et qui déguisait ça en geste d'amour. Donc mon côté vieux catholique avant, je pense, au fils qui venait d'accompagner sa mère, pendant 10 ans, il me semblait que le gendarme qui avait fait ça, c'était son problème. Pas glorieux, pas un peu triste, etc. Il n'y avait pas à lui jeter la pierre, mais en revanche, que Le Monde donne ça comme l'exemple de geste d'amour, comme si c'était le philosophe grec qui, devant la mer, choisissait enfin librement s'il mourait ou non, alors que le type disait « Je ne peux pas supporter sa souffrance. Je ne peux pas. » C'est elle qui s'est dit ou lui? Voilà, donc, et je sentais confusément que donner comme modèle de l'amour l'idée que quand une femme qu'on aime, qu'on aimait et qui disparaît, déjà, et qu'on s'aperçoit qu'elle n'est plus là, la meilleure façon de régler le problème était de la flinguer. Il y avait peut-être ici ou là un problème. Donc j'avais fait mon petit article. Et évidemment, après, le tombereau de réponses, alors là, on écrit 200 articles. C'est pas beaucoup, mais... Et on a 3 réponses. Hein. Alors, un article dans Le Monde, là, c'était que les médias sur l'Alzheimer. J'avais naïvement téléphoné, ils ne publient pas tout de suite. J'avais dit, mais ça va passer. Oh, oui, vous inquiétez pas, ça va passer. Pas du tout pour la raison problème, parce qu'il y avait les paroles des médecins catholiques en groupe, il y avait les paroles des défenseurs de mourir dans la dignité. Et puis il manquait une parole, pas celle d'un médecin catholique, quoique, pas celle de... Mais l'expérience, moi, en gros, les retours étaient. Là, c'est exactement ça, ce qui fait plaisir aux sociologues, c'est aussi pour les musiciens. Je ne disais pas comme ça, mais ce que vous décrivez sur la musique, ou là, ce que vous décrivez sur l'accompagnement d'une mère qui meurt d'Alzheimer, c'est ce qu'on a vécu. Quoi. ça faisait plaisir. Après, je me suis dit, ben, j'avais jamais été aussi sociologue qu'en croyant ne pas l'être en écrivant cette lettre. Il y a eu la Fondation Médéric Alzheimer qui m'appelait. Puis, du coup, le CARE même, au sens premier du terme, là, le soin aux personnes, est devenu comme une espèce d'évidence pour moi, le domaine suivant à étudier. Et j'ai mis du temps à comprendre que les gens ne voyaient pas le rapport avec les amateurs. Bon, soigner, aimer un bon vin qui coûte 250 euros et en discutant avec un vocabulaire précieux sur le velouté et puis torcher la merde de gens qui bavent, c'est ça, le CARE, c'est sale, il y a ces décors, des maladies, de la souffrance, massivement des filles d'immigrés payées en dessous du SMIC qui font ça, et toute une on délègue la gestion des mourants au sens large, hein, pas les soins palliatifs. Toutes les personnes malades, faibles, on délègue ça, les personnes mal payées, et aux surprises, pas pour nous, qui développent un savoir de l'accompagnement des êtres fragiles absolument inouï. Alors là, c'est toujours la surprise du sociologue, mais ça, c'est la surprise de tous les sociologues. Hein. On se rapproche un peu des acteurs, et aux surprises, j'ai fait pareil pour les sportifs, hein. Le vocabulaire, on peut l'imiter des fois, mais la finesse avec laquelle un entraîneur de course dit à ses ouailles comment courir. Ah, ouais, j'ai noté, c'était un cours de pragmatisme. Ne cours pas. Ne cours pas. Ah bon, si on essaye de faire quelque chose, on le bloque. Ah bon, il faut quand même. Non, évidemment, vous voyez ce qu'il y a derrière, relâchement, tout, mais c'est quand même. Il est sûr que ce type n'a pas d'expérience des choses. Ben, bien sûr. Et alors là, sur le CARE, alors on a trop tiré de ce côté-là. Je dis trop, pas du tout comme autocritique, pas du tout le genre de la maison. Mais parce que c'est ça qui manquait. Hein. Il y a beaucoup de questions sur le CARE, passionnantes, hein, c'est un domaine incroyable. Les domaines qui se sont débattus eux-mêmes. On peut en venir là-dessus dans le séminaire, parce que c'est passionnant. L'histoire du CARE en 10 ans hein, rejoue la plupart de ces enjeux-là par un débat interne entre Gilligan et Tronto, entre Tronto et le MOL, les reprises, le CARE généralisé. Donc ça, c'est passionnant. Mais là, plus bêtement, on s'est posé avec Pierre Vidal-Naquet en négociant ce qu'il fallait, en faisant tout le boulot pour enquêter sur le savoir des personnes elles-mêmes en situation difficile, d'épreuve, avec des êtres fragiles. Et alors là, c'est exactement comme la musique. Plus on est prêt, plus la subtilité de ce que veut dire un regard. Je vais vous donner un exemple pour voir le genre de la richesse de l'expérience. Je vous disais torcher, là. Oui, il faut notamment nettoyer les matières fécales, bon, le caca, en bon français, des personnes âgées. Voilà. Vous mettez ça dans des manuels. Attendez, je prends un vieux au hasard. Bon, ben, c'est un peu délicat ce que je vais vous faire, mais il va falloir que je vous nettoie le postérieur. Catastrophe. Est-ce qu'une aide-soignante, mais qui n'a jamais été formée, qui arrive, fait ça? Mais non. On parle d'autre chose. On parle des enfants. Ah ben, lui, il sait ce qu'on lui fait. Elle sait qu'on parle des enfants. On est complice, c'est du Goffman. Quand on n'a rien de temps. En un rien de temps, on a arrangé la scène, ça passe tout seul. De son complice, bah oui, on sait que c'est une nécessité, on le fait. Mais le nombre de petites actions minimales qui consistent quand même à guetter ce qui se passe, donc une attention au moindre détail, avec toutes ces couches complètement hétérogènes, hein. Ça peut être son humeur, ça peut être le fait qu'il y a des tas de contraintes. Alors, c'était aussi un petit plus par rapport à mes questions musicales, où la contrainte, c'est surtout celle de la performance, de la virtuosité. Là, non. Ah non, bah oui, elle râle, elle est odieuse, elle m'engueule, mais il faut qu'elle prenne ses médicaments. Qu'est-ce que je fais? Je prends un entonnoir et j'appuie. Ah, ça ne va pas le faire complètement. Eh oui, CARE dans les bonnes pratiques, rien de ça. Attendez. Non, on force les gens à faire des choses. Comment? Eh bien, c'est là que les humains rusent, s'appuient, jouent leur rôle, se servent de leur caractère. Il n'y a pas deux façons de faire analogues, parce qu'une telle qui est un peu bourrue, etc., ça peut marcher. Avec la vieille dame qui emmerde toutes les jeunettes en leur reprochant de l'aider, ce qui est un classique des personnes aidées, et bien avec elle répond sur le même ton, elle l'engueule, et puis en un rien de temps, elles étaient complices. Voilà. Une autre fois, c'est au contraire une espèce de douceur ironique et supérieure, un petit jeu du chat et de la souris. Elles mettent en place, et j'insiste sur l'espèce de rapport humain, là, des petits jeux à deux personnes, mais c'est tous les objets du théâtre, là aussi, c'était Goffman tout à l'heure, c'est très très utile. Pas seulement pour comprendre le CARE, mais pour comprendre Goffman. C'est-à-dire quand il y a la métaphore du théâtre. Hein. Le CARE, non, quand il est du théâtre, il n'est pas du tout dans cette espèce de philosophie cheap, le monde est un théâtre et on joue des rôles, etc. Non, on joue des rôles. C'est un nana qui va voir la vieille acariâtre qui se prépare, elle se prépare avant. Elle dit, bon. Alors Madame Michy, bon. Et bien, moi, mon mari vient de m'engueuler, le petit déjeuner était dégueulasse, il n'y a plus de café. Hein, je regonfle la machine, je souris, je sonne, je me fais engueuler même en sonnant. Et c'est quoi? C'est un acteur qui rentre en scène. Il rentre en scène. Ben oui, oui. Au sens de Goffman, pas au sens où on fait du théâtre, au sens où il y a un lieu, il y a une personne en face, chacun est attendu dans un rôle, mais un rôle qui est complètement ce qui se passe, qui n'est pas un rôle plaqué ou au frais semblant de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, elles inventent les scènes qu'on a essayé de décrire, on n'a toujours pas publié, donc il faut absolument qu'on publie les études de cas. Mais j'hésite entre faire tout mon grand baratin théorique qui va noyer les choses ou donner juste les cas tout nus, ce qui va être bon. Et donc on fera ça sans lui. Et puis j'arrête là avec. Les études suivantes, en soulignant un dernier aspect des choses, c'est que il y avait des points faibles dans notre étude, enfin des points non analysés, disons, dans notre étude, c'était que d'autres avaient beaucoup analysé, qui était le côté institutionnel, les services de soins, la politique, qui ben, les vieux, c'est comme les migrants, hein, c'est pas prêt de s'arrêter. Il y en aura beaucoup et de plus en plus, il faudra peut-être s'occuper de comment on fait pour gérer ça. Donc ça a été pas mal étudié, avec toujours ces ambiguïtés sur la posture critique, attention, dès qu'on aide les gens, il faut faire gaffe, les analyses de la domination, toutes présentes dans la relation d'aide, hein, c'est une évidence, quand vous aidez quelqu'un, vous le faites chier d'abord. Et la première réaction de quelqu'un qui est aidé, c'est de ne pas vous la demander à vos enfants, c'est de résister. Hein, donc tout ça à travailler, est-ce que c'est un savoir des gens eux-mêmes, ou est-ce que c'est le sociologue de la domination qui vient dire, attention, la relation d'aide, en fait, elles sont exploitées parce que c'est une vieille bourgeoise qui les paye, et une institution qui leur demande d'être gentille, vous voyez où peut aller la sociologie. Bon, un point qui n'était pas vu, c'est ce côté extrêmement collectif, organisé de l'aide. Et il était présent parce que selon les services, on a quand même des relations extrêmement différentes aux patients. Donc quelque chose comme une passion. Donc quelque chose comme une politique du soin mise en œuvre par les organisations. Et ça, c'est un des éléments, un autre que je mets dans le panier là, dont on a discuté pour le séminaire, c'est dans qu'est-ce qu'on fait, non plus comme une espèce de question de méthode ou d'épistémologie, c'est pas d'épistémologie dont il s'agit, c'est pas de dire comment on sait, on sait pas, c'est comment on recueille l'expérience. C'est pas du tout individuel là pour le coup. On a face à nous des associations. Alors là, j'ai insisté sur le pôle James, mais le pôle du oui est beaucoup plus fort. Hein. Effectivement, les personnes concernées, ce n'est pas des personnes concernées, c'est des débats, c'est des organisations, c'est des militants, c'est des associations, c'est des bénévoles. Est-ce que faire de la recherche, c'est pas seulement recueillir l'expérience des personnes, comme je l'ai un peu trop dit jusqu'à présent, mais c'est aussi, au deuxième degré, recueillir la façon dont collectivement, ou de façon commune, d'ailleurs les discussions sur les mots même, association, groupe, militant, se mettent en place, comment ce savoir collectif est produit à travers des expériences continues. Et alors ça, c'est une règle que s'est donnée pour le projet ERC qu'on fait avec le séminaire attachement, avec les jeunes ouailles, dont certains sont présents, avec lesquels on a travaillé sur attachement, donc des cas très différents, mais à chaque fois, une recherche partagée. Alors là, je suis prêt à mettre ça sur la table avec vous, là. Est-ce que c'est nécessaire ou non? Une recherche partagée avec, non seulement des personnes dont on recueillerait l'expérience, la formule que j'ai utilisée avant, mais vraiment des modalités, des pratiques, des outils, des dispositifs, des écrits, des discussions qui, collectivement, font émerger les choses. Alors, je dis ça un peu lourdement exprès, et avec un vocabulaire assez du oui, parce que là, la frontière entre le travail du sociologue et le travail de quelqu'un qui s'occupe des migrants ou du soin à domicile, où elle est la différence? Alors, c'est pas où elle est la différence, au sens où je pose la question, sous-entendu, il n'y en a pas. C'est où elle est, il faut beaucoup plus finement, même si la version du pensable, se poser la question de ce qu'on fait, parce qu'il y a des choses qu'on fait et qu'on... Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Que le chercheur, que l'enquêteur, formé par les sciences sociales, il faut baisser toutes ces ressources, leur niveau minimal, fait que les acteurs eux-mêmes ne font pas. C'est de moins en moins vrai aussi à quel point toutes ces associations bouffent les sciences sociales, les enquêtes, etc., tout ça a été étudié. D'où l'idée, là, pour le projet qu'on a déposé à l'ERC, que chaque fois, les quatre thèmes de qu'on met sous la rubrique fragilité, aussi avec un côté un petit peu démago pour avoir les sous de l'Europe. Personne n'est parfait. Mais donc avec deux plutôt sur le soin, deux plutôt sur l'aspect migration, et on prend quatre terrains, appelons ça terrain, les sociologues pour inventer que les choses sont des terrains. Malgré l'immense respect pour les sociologues. Et donc, on avait deux sur les migrants très très contrastés, une à travers le problème des migrants actuels, et autrement la jungle de Calais en particulier, mais elle a duré ce que durent les expériences, mais on l'a interrompu de façon plus musclée, à travers une association qui s'appelle le Pérou, un travail sur les soins palliatifs, chose de côté des êtres qui passent, ça fait plusieurs sens. Donc mobile, peu de points de repère, sur quoi on s'appuie, c'est commun aux soins et au care ou à des situations aussi difficiles que d'être entre la vie et la mort étant pratiquement sûre. Qu'est-ce qu'on fait de ces êtres-là, migrants, le peu qu'il avait, l'argent que toute sa famille, et la famille au sens du Moyen-Orient ou de l'Afrique, c'est-à-dire 50 personnes ont récolté, passé au passeur, à peine j'étais pas encore au Mali, que j'étais déjà dépouillé, esclave, coulé dans les bateaux, etc. J'arrive là, l'Europe discute de savoir si on m'accueille ou non. Donc, des êtres solides, des êtres qui passent solides, mais des êtres qui ont eu à éprouver, à expériencer ce à quoi ils tiennent et ce qui peut les tenir. Donc, comment à la fois les aider et recueillir cette expérience et la faire connaître. Donc là aussi, je dis ça à cause des rapprochements. Je ne vois pas comment, sur un sujet pareil, on peut, je vois comment on peut le faire, mais il ne faut pas, on peut soit prendre la position surplombante de l'anthropologue des migrations qui rappelle tous les grands cadres, sans être dans la jungle à certains moments, on ne peut pas les analyser sans aider, au sens où le fait même, comme elle est interdite, le fait même d'aider à construire une rue, des toilettes sèches ou des baraques, ou de donner des sous, c'est déjà un geste politique. Est-ce que cette expérience-là, on peut la saisir avec des gens qui ne parlent pas français autrement qu'avec un contact qui lui-même établit une relation? En tout cas, ce lien entre politique, relation d'aide, savoir et... J'ai pas du tout parlé jusqu'à présent, très du Wuyin, making things public. Remettre ça sur la place publique, et pour les migrants, c'est la question numéro un, aujourd'hui, les journées d'hier, c'est assez hallucinant pour ça, c'est-à-dire une espèce de politique d'invisibilisation. Non, on va bien accueillir dignement, comme pour ma maman, pour être humain, on va accueillir dignement les migrants d'un côté, s'ils ont bien, ça s'appelle pas comme ça, ils ont bien le droit d'asile, et puis les autres, on va bien, avec fermeté, mais dignité, les renvoyer chez eux. N'importe quelle personne qui fait 3 minutes au Soudan se dit que la frontière, ou en Éthiopie, ou en Syrie, se dit que la frontière entre migrants économiques et migrants droit d'asile est extrêmement difficile à établir. Donc, des associations engagées, pour le coup, comme le Pérou. Alors, l'avantage du Pérou, que j'ai pris, c'est qu'il fait lui-même, c'est pas moi qui l'ai demandé, le lien explicite entre une action qui consiste à aider sur le terrain, notamment pour recueillir l'expérience, documenter, faire voir que ça existait, presque à côté, écrire l'histoire de la jungle, c'est un acte politique, donc il fait de la politique avec ça, et un aspect que nous, sociologues, on est particulièrement nuls à mettre en œuvre, il travaille sur ce « making things public » dans le sens de la mise en forme, enfin de la dimension... On trouve que l'appeler artistique ou esthétique ou médiatique serait catastrophique. Non, c'est pas ça. C'est dire ce que sont les migrants et pourquoi nous, on devrait s'y attacher ou les défendre. C'est aussi une mise en forme, des expos, des photographies. J'ai eu un petit cours sur ce que pouvaient être les images, rien qu'avec la façon dont se pose la question de ces photos misérabilistes de la jungle. Donc, vous voyez, il faut une photo avec... un enfant, un gamin, ça marche toujours, 6 ans, des grands yeux noirs, avec à la main de sa maman, avec un grand sourire. Alors, bien sûr, il faut aider ces gens. Vous mettez une photo, il y a trois petits jeunes en cagoule qui sautent sur, avec des barbelés qui sautent sur des camions, vous dites, oh là, avec des pierres, bon il faut tous les expulser. Mais... Non, non. Bon, alors, hop, vous avez les Anglais qui arrivent, non, ne pas photographier les migrants, ils sont musulmans. C'est pas du racisme à l'envers, ça, ben oui. Donc, on peut travailler sur ce que c'est que produire des images de la jungle, y compris photographiques, en établissant une relation. Donc, il y a des photographes du Pérou qui établissaient une relation comme ça avec des gens de la jungle et qui leur demandaient, une fois que c'est fait, on se dit, mais quelle image vous voudriez donner de vous? Donc, et discuter de ça, etc. Il y a des portraits magnifiques, ben, un musulman, t'es ravi de l'échanger ensuite la photo contre un poème. Bon, mais là, on ne vole pas une photo des migrants. Donc, mise en forme artistique, travail politique, making things public, et le troisième terme, puis je vais conclure là-dessus, enquête. Ce qu'il nous reste, un sociologue, c'est ou anthropologue, ou architecte, ils ont fait des relevés de la jungle, c'est ce travail qui va bien essayer de dire ce qui se passe, de dire ce que sont les choses, mais qui me semble alors à la fois beaucoup plus technique, il faut se demander avec quels outils, beaucoup plus proche du travail même des acteurs pour faire la même chose, et en même temps, c'est là que probablement les sciences sociales depuis 100 ans, depuis le jour où elles se sont dit non, on ne fait pas de la philo, parce que nous, on enquête, c'est quand même le geste de base de l'anthropologie, de Malinowski, de Kyle Moss un peu limite, mais juste après, des Américains évidemment, de Chicago. Donc, repenser l'enquête avec cet engagement dans une pluralité d'ontologie en train de se faire, de monde en train de se faire. La version que j'ai donnée là, ben tiens, il n'y a qu'à le faire avec des associations, est démagogique. C'est pas vrai, démagogique. Elle balaye, là encore, comme on fait toujours, les problèmes un peu délicats sous le tapis, parce que c'est pas obligé non plus. C'est pas la solution. C'est pas parce que, comme c'est le cas pour les quatre cas qu'on a pris pour le projet, c'est-à-dire aussi les banlieues avec un groupe d'ex-militants très engagés, un squat et tout, qui maintenant vit plus paisiblement sa vie de chercheur, mais sur place, à Vaux-en-Velin, où non seulement il y a eu plein de migrations, mais il y en a eu beaucoup historiquement avec des tas de populations diverses, donc arméniens, juifs, afghans, syriens, africains, etc. Et arabes, bien sûr, quand même. Donc il existe quelque chose. Partir de ce qui existe, ça prend un sens très très fort ici, sur le long terme, à travers, en regardant comment les cafés se négocient, comment les disputes se négocient, comment les tensions restent, le « staying with the trouble ». C'est la définition la plus parfaite du politique aujourd'hui. Hein. Il ne s'agit pas de les apaiser, de les maintenant. Comment eux-mêmes s'arrangent avec la différence. Donc, un travail sur les banlieues à partir de cet angle d'attaque-là. Un travail sur le travail du Pérou, sur cette espèce de making things public, sur la question des migrations, avec une association, donc. Un travail exemplaire, là, qui est un peu notre modèle à tous, de DDD, là, sur la Huntington Disease, par le groupe Ding Dang Dong, qui est une façon de se moquer du mot même Huntington, mais pas de se moquer, c'est qu'il est dur à prononcer. Oui, mais dur à prononcer, ça peut être lié à la maladie d'Huntington, donc une façon très, à la fois amusante, d'enquêter sur la maladie d'Huntington, et comme elles disent superbement, ce sont tous des nanas, de faire exister la maladie d'Huntington, ce qui pourrait faire paradoxal par rapport à des versions curatives, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre au sérieux cette expérience, qu'est-ce que c'est que de l'avoir. Là, l'association, alors c'est la caricature, parce qu'ils font tout parfaitement, là. Je ne sais pas si le bon Dieu est descendu sur elle, mais il y a un site très amusant, il y avait une enquête, un débat sur les enquêtes, ils avaient un slogan qui était « devenir Huntingtonien ». Là, pour faire « non, je ne suis pas entre deux, je ne suis pas mais, baisser les épaules pour voir ce qui se passe », non. Faut que vous voyez maintenant, selon les personnes, ça peut être la solution. Certaines disaient, bah oui, maintenant que je sais que je suis Huntingtonien, que je vois qu'il y en a d'autres, je crée mon collectif un peu plus traditionnel dans le Caire, je fais mon association de malades, et bien d'autres, non, moi c'est pas ça, moi je veux pas être Huntingtonien, je veux vivre malgré ça, la formule même, et puis les accents mis sont pas aux mêmes endroits. J'avais exactement la même chose sur le Caire avec un tétraplégique là, qu'on a étudié, Ulysse, lui, il organise tout pour ne pas être handicapé. Donc ça veut dire qu'il passe la moitié des heures de sa journée dans les soins, etc., pour arriver à mettre au point le moment où il pourra être juste le mari de sa femme ou l'informaticien qui bidouille. Donc toutes ces stratégies pour gérer l'expérience, on est tout près de ce savoir des personnes mêmes. Pour les jeunes, dernier cas pour la bonne bouche, là, les soins palliatifs, Anne-Sophie est là. Et là, c'est pas ce qu'elle a, c'est pas vraiment... On pourrait dire c'est une chercheuse traditionnelle qui fait de l'anthropologie très très minutieuse. Hein. Vous laissez Anne-Sophie un endroit, hop, 6 mois après, il y a 1000 pages de notes. Bon, méfiez-vous, ne l'invitez pas dans le centre de recherche. Se demander un soin palliatif, la contrainte là aussi est assez maximale, hein, parce que la règle du jeu, c'est quand même qu'en gros, on commence soin palliatif quand on est sûr que ça va finir mal et assez vite. Donc c'est... Alors la tendance humaniste, la tendance courante, c'est bon, ben, on les met dans leur coin, puis au moins... On ne parle plus, on va déléguer ça à des travailleuses immigrées, ça ira très bien. La tendance plus humaniste, c'est de les prendre pour des vivants, et voir les traiter humainement à la haine. Hein. Non, non, savoir qu'on va mourir, être dans cet état où des choses disparaissent, etc. Non. C'est une expérience, et comme une ding-dong, si on la nomme comme telle, si on la suit, sans l'aligner, soit sur la mort qui va venir, soit sur la vie qui n'est plus, voilà, on la rate. Et donc, évidemment, c'est des expériences. Ben là, c'est pas une association, je veux dire. C'est pas une association. Donc, c'est pour ça que je veux dire, aller plus loin que cette version un peu démagogique qui consisterait à dire que les sociologues n'ont plus le droit d'enquêter que s'ils passent par une association qui enquête déjà. Non, c'est pas ça la formule. Parce que là, on peut renverser les choses. Et pourquoi ça prend cette forme-là? Donc, il faut réfléchir à nos formes d'enquête selon nos sujets. C'est que les soins palliatifs eux-mêmes, quand ils ont été définis, quand ils ont été définis pas au sens seulement juridique, hein, quand on a écarté un petit peu ce court espace, trouvé les lieux pour faire ça, débattu des méthodes, etc., pour s'occuper de ces personnes condamnées à mourir, on peut en faire simplement des condamnés à mort, et bien la discussion même, tous les débats, les objets, etc., des organisateurs de soins palliatifs étaient de faire exister cette expérience. Donc, c'est peut-être, non seulement c'est pas le cas où il y a le moins d'associations, mais à la limite, ce serait peut-être le cas le plus extrême dans l'autre sens, c'est-à-dire où les personnes concernées elles-mêmes sont des expérienceurs au double sens d'expérimentateur et de vivre l'expérience. Ils sont en train de constituer l'expérience même qu'ils sont en train de vivre. Donc là aussi, c'est un savoir collectif, in the making, où il n'y a pas de savoir externe qui va obéir à des lois. Ils sont en train d'être en prise avec ces sujets. Voilà. Donc, vous voyez, on met sur la table un peu cette façon de relire et de réorienter au passage nos recherches, mais avec finalement une liste de questions qui est courte, qui est difficile, mais courte, qui sont un peu ces à côté de la sociologie comme domaine qui est bien sûr très polémique. C'est une grande qualité des sociologues qui ne sont jamais d'accord entre eux. Moi, il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas le débat entre Bonner et Hennig, c'est quand même pas la sociologie. Donc il y a beaucoup d'autres façons de faire, oui, mais quand même, on recueille l'expérience des gens, on en fait, puis on en fait avec, en s'appuyant sur quelques auteurs, on en fait des récits qui sont publiés dans des articles. Cette ouverture ontologique du monde comme la série des expériences plurielles non sommables en cours, elle impose des méthodes d'enquête, des redéfinitions de nos liens avec les philosophes, hein, des aspects qu'on va traiter la prochaine fois avec Debèze, emprunter juste ce qu'il faut, mais pas plus, à l'ontologie et à ces débats-là pour nous instrumenter, pour accompagner ces recherches en cours, et puis nous demander, je dirais presque techniquement, le mot technique est très beau, surtout pour des musiciens. Quels sont les petits plus les choses à inventer peut-être aussi pour que ce qui vient de cette expérience bien réelle, historique, qu'a été l'accumulation des savoirs, des techniques, des façons d'enquêter accumulées par la sociologie, en particulier par les sciences sociales en général, puisse resservir un peu différemment aujourd'hui si on se place dans ce monde in process of making. Alors le gros avantage un peu dramatique, avec les théories de l'effondrement, etc., c'est que le climat s'est un peu chargé de changer cette tonalité. Les sciences sociales qui ne s'occuperaient pas du fait que peut-être qu'on est tous en soins palliatifs, collectivement et sur une échelle légèrement plus longue, ça change aussi la donne. Donc se dire qu'étudier le monde en train de se faire, dont on ne sait pas, c'est pas trouver des lois générales, mais se demander ce qu'on fabrique ensemble et quelles mesures il faut prendre relativement urgentes, alors qu'on aurait dû prendre il y a 40 ans. Pour réussir à vivre ensemble. Et cette formule, est-ce qu'elle est de la socio, est-ce qu'elle est de la politique, est-ce qu'elle est de l'environnementalisme, est-ce qu'elle est de suivi des expériences collectives que nous vivons, c'est dur à savoir. Mais on a mis pour le moment l'environnement relativement loin de nos préoccupations. Là, on va laisser la tour s'en occuper.